Jusqu'ici, je crois que mon récit a été clair. Je ne sais malheureusement si la suite le sera autant, car ma nouvelle occupation demandait une telle tension d'esprit qu'elle rendait tout contrôle sur moi-même impossible. J'aurais eu peut-être une chance minime de m'en sortir si je m'étais trouvé devant un véritable échiquier qui m'eût permis en quelque sorte de projeter les choses dans l'espace. Devant un échiquier avec de vraies pièces à déplacer, on peut donner un rythme à ses réflexions, se transporter physiquement d'un côté de la table à l'autre et considérer ainsi la situation tantôt du point de vue des Noirs, tantôt de celui des Blancs. Mais contraint que j'étais de livrer des combats contre moi-même, ou si vous préférez, contre un moi que je projetais dans un espace imaginaire, il fallait que je me représente clairement les positions successives des pièces, les possibilités de chacun des partenaires, et si absurde que cela paraisse, que je vois distinctement en esprit 6, 8, 12 positions différentes, afin de calculer 4 ou 5 coups d'avance pour chacun des adversaires que j'étais seul à représenter. Mon cerveau se partageait, si je puis dire, en cerveau blanc et cerveau noir pour mener ce jeu dans un espace abstrait et combiner les coups qu'exigeait, dans les deux camps, la tactique de la bataille. Et le plus dangereux de l'affaire n'était pas encore cette division de ma pensée à l'intérieur de moi-même, mais le fait que tout se passait en imagination. Je risquais ainsi de perdre pied brusquement et de glisser dans l'abîme. Lorsqu'auparavant, je refaisais les parties célèbres du manuel, je n'exécutais qu'une copie, et l'exercice ne dépendait pas plus de force que la mémorisation d'une pièce de vers ou d'un paragraphe du code. C'était une activité limitée, disciplinée, gymnastique, mentale remarquable. 2 parties le matin, 2 parties l'après-midi, je m'acquittais de cette sorte de pensum sans beaucoup d'émotion. Le jeu me tenait lieu d'occupation normale et si je me trompais, si j'hésitais au cours d'une partie, le traité me prêtait son appui. Si cette activité m'avait été salutaire, c'est que je n'y étais pas moi-même en jeu. Il m'était indifférent que la victoire revînt au noir plutôt qu'au blanc. C'était l'affaire d'Alekhine ou de Bogojoubov qui briguait l'honneur d'être champion. Et le plaisir que j'éprouvais était celui du spectateur, du connaisseur qui apprécie les péripéties du combat et sa beauté. Dès le moment où je cherchais à jouer contre moi-même, je me mis inconsciemment au défi. Le noir que j'étais rivalisait avec le blanc que j'étais aussi, et chacun d'eux voulait gagner. La pensée de ce que je ferais en jouant avec les blancs me donnait la fièvre quand je jouais avec les noirs. L'un des deux adversaires qui était en moi triomphait et s'irritait à la fois quand l'autre commettait une erreur. Tout cela paraît dépourvu de sens, et le serait en effet s'il s'agissait d'un homme normal vivant dans des conditions normales. Quelle histoire inimaginable qu'une schizophrénie provoquée de cette manière, quel inconcevable dédoublement de la personnalité. Mais n'oubliez pas que j'avais été violemment arraché à mon cadre habituel, que j'étais un captif innocent, tourmenté depuis des mois par la solitude. Un homme en qui la colère s'était accumulée sans qu'il pût la décharger sur rien ni personne. Aucune diversion ne s'offrant, excepté ce jeu absurde contre moi-même. Ma rage et mon désir de vengeance s'y déversèrent furieusement. Il y avait un homme en moi qui voulait défendre son droit, mais il ne pouvait s'en prendre qu'à cet autre moi contre qui je jouais. Aussi, ces parties d'échecs me causaient-elles une excitation presque maniaque. Au début, j'étais encore capable de jouer calmement. Je faisais une pause entre les parties pour me détendre un peu. Mais bientôt, mes nerfs irrités ne me laissèrent plus de répit. À peine avais-je joué avec les blancs que les noirs se dressaient devant moi, frémissant. À peine une partie était-elle finie qu'une moitié de moi-même recommençait à défier l'autre, car je portais toujours en moi un vaincu qui réclamait sa revanche. Je ne saurais dire, même approximativement, combien de parties j'ai joué ainsi dans mon insatiable égarement, peut-être 1000, peut-être davantage. J'étais possédé et je ne pouvais m'en défendre. Le jour durant, je n'avais en tête que mat et roc, je ne voyais que pion, tour, roi et fou. Tout mon être, toute ma sensibilité se concentrait sur les cases d'un échiquier imaginaire. La joie que j'avais à jouer était devenue un désir violent. Le désir, une contrainte, une manie, une fureur frénétique qui envahissait mes jours et mes nuits. Je ne pensais plus qu'échec, problème d'échec, déplacement des pièces. Souvent, m'éveillant le front en sueur, je m'apercevais que j'avais continué à jouer en dormant. Si les figures humaines paraissaient dans mes rêves, elles se mouvaient à la manière de la tour, du cavalier et du fou. À l'audience, mes pensées étaient confuses. J'ai l'impression de m'être exprimé assez obscurément les dernières fois que je comparus, car les juges jetaient des regards étonnés. En réalité, tandis qu'ils menaient leur enquête et leur délibération, je n'attendais dans ma passion avide que le moment d'être reconduit dans ma chambre pour y reprendre mon jeu de fou. Une partie, encore une partie. Toute interruption m'importunait jusqu'au quart d'heure pendant lequel le gardien balayait la chambre, jusqu'aux 2 minutes qu'il lui fallait pour m'apporter à manger. Souvent, mon repas était encore intact le soir dans son écuelle, car j'en oubliais de manger. Je n'avais qu'une soif effroyable due sans doute à ce jeu fébrile et à ces perpétuelles réflexions. Je vidais ma carafe d'un trait et suppliais le gardien de me rapporter de l'eau. Mais l'instant d'après, ma bouche était déjà sèche. Pour finir, mon excitation atteignit un degré tel que je ne pouvais plus rester assis 1 minute. Je ne faisais absolument rien d'autre que de jouer toute la journée en arpentant ma chambre sans arrêt, toujours plus vite, d'un pas toujours plus pressé, à mesure que la fin de la partie approchait. La passion de gagner, de vaincre, de me vaincre moi-même devenait peu à peu une sorte de fureur. Je tremblais d'impatience, car l'un des deux adversaires que j'abritais était toujours trop lent au gré de l'autre. Il se harcelait, et si ridicule que cela vous paraisse, je me houspillais moi-même. Plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, allons, allons! Quand la riposte n'était pas assez prompte. Je sais, aujourd'hui bien entendu, que cet état d'esprit était déjà pathologique. Je ne lui trouve pas d'autre nom que celui d'intoxication par le jeu d'échecs, qui n'est pas encore dans le vocabulaire médical. Cette monomanie finit par m'empoisonner corps et âme. Je maigris, mon sommeil devint agité, intermittent. Au réveil, mes paupières étaient de plomb, je les ouvrais à grand-peine, j'étais devenu si faible, mes mains tremblaient tellement que je ne portais pas un verre à mes lèvres qu'au prix d'un gros effort. Mais sitôt, une partie commençait, j'étais galvanisé par une force sauvage. J'allais et venais les poings fermés et j'entendais souvent comme à travers un brouillard rougeâtre ma propre voix me crier sur un ton rauque et méchant « échec ou mat ». Je ne puis vous dire comment la crise se produisit, je sais seulement que je me réveillais un beau matin d'une autre manière que d'habitude. Mon corps était comme délivré de moi-même, il se prélassait mollement, étendu dans un agréable confort, une bonne grosse fatigue, telle que je n'en avais pas connue depuis des mois, appesantissait mes paupières, me donnant un si grand sentiment de bien-être que je ne pus me décider à ouvrir les yeux tout de suite. Pendant quelques minutes, je demeurais ainsi jouissant de ma torpeur, de la tiédeur de mon lit, avec une voluptueuse langueur. Tout à coup, il me sembla entendre des voix derrière moi, des voix humaines chaudes et vivantes, qui prononçaient des mots tranquilles. Et vous ne pouvez pas vous imaginer mon ravissement, à moi qui n'avais depuis des mois rien entendu d'autre que les dures et méchantes paroles de mes juges. « Tu rêves, me dis-je, tu rêves, surtout, n'ouvre pas les yeux. Prolonge ton rêve, plutôt que de voir encore cette chambre maudite, la chaise, la cuvette, la table et l'éternel dessin du papier au mur. Tu rêves, continue à rêver. » Mais la curiosité l'emporta. Lentement, prudemment, j'ouvris les yeux. Merveille ! Je me trouvais dans une autre chambre, une chambre plus spacieuse que ma chambre d'hôtel. La lumière entrait librement par une fenêtre sans barreaux. Au-delà, je voyais des arbres verts où courait le vent au lieu de mon sinistre mur. Les vernis de la chambre étaient blancs et brillants. Blanche aussi, la couverture qui me couvrait. Oui, vraiment, j'étais dans un autre lit, un lit que je ne connaissais pas. Ce n'était pas un rêve. Des voix humaines parlaient doucement derrière moi. Ma découverte dut m'agiter violemment, car des pas s'approchèrent aussitôt. Une femme venait vers moi, la démarche légère, une femme qui portait une coiffe blanche, une infirmière. Je frissonnais, ravi. Je n'avais pas vu de femme depuis 1 an. Sans doute regardais-je cette gracieuse apparition avec des yeux extasiés et brûlants, car l'infirmière me dit « Restez tranquille, bien tranquille ». Je n'écoutais que le son de sa voix, N'était-ce pas celle d'une créature humaine ? Il y avait donc encore sur la terre des gens qui n'étaient pas des juges, des tortionnaires. Il y avait, ô miracle, cette femme à la voix douce et chaude, presque tendre. Je fixais avidement la bouche qui venait de me parler avec bonté, car cette année infernale m'avait fait oublier que la bonté pût exister entre les hommes. Elle me sourit, oui, elle souriait, et il y avait donc encore des gens qui me souriaient en ce monde. Puis elle mit un doigt sur ses lèvres et s'éloigna sans bruit. Comment eussé-je pu lui obéir ? Je fis, au contraire, des efforts énergiques pour m'asseoir dans mon lit et pour la suivre des yeux, pour contempler encore cette créature miraculeuse et bienveillante. Je voulais m'aider de mes mains, je n'y parvins pas. La droite avait disparu tout entière dans une sorte de gros paquet blanc, un pansement apparemment. Je le considérais d'abord avec ahurissement, puis je compris lentement où j'étais et me mis à réfléchir à ce qui pouvait bien m'être arrivé. On m'avait blessé sans doute, ou bien je m'étais blessé moi-même à la main, et je me trouvais à l'hôpital. L'après-midi, j'eus la visite du docteur. C'était un aimable vieux monsieur. Mon nom ne lui était pas inconnu et il parla avec tant de respect de mon oncle, le médecin de l'empereur, que je sentis tout de suite qu'il me voulait du bien. Au cours de la conversation, il me posa toutes sortes de questions dont l'une, entre autres, me surprit. Il me demanda si j'étais mathématicien ou chimiste. Je lui dis que non. « Curieux, murmura-t-il, vous prononciez de si étranges formules dans votre délire, ces trois, ces quatre, personne de nous n'y comprenait rien. » Je m'enquis de ce qui m'était arrivé. Il sourit bizarrement. Rien de grave, une violente crise de nerfs. Et il ajouta tout bas, après avoir jeté un regard circonspect autour de lui, très compréhensible d'ailleurs, « Vous étiez là-bas depuis le 13 mars, n'est-ce pas ?» Je fis « oui » de la tête. « Pas étonnant avec cette méthode, » grommela-t-il. « Vous n'êtes pas le premier, mais ne vous inquiétez pas. » À la manière dont il me glissait ses mots et dont il me regardait, je sus que j'étais en bonne main. Deux jours plus tard, l'excellent docteur me raconta franchement ce qui m'était arrivé. Le gardien m'avait entendu crier très fort dans ma chambre et il avait cru d'abord que quelqu'un s'y était introduit avec qui je me querellais. Mais à peine avait-il paru à la porte que je m'étais précipité sur lui en poussant des cris sauvages. « Allons, vas-y, gredin, poltron !» J'avais essayé de le saisir à la gorge avec tant d'impétuosité qu'il avait dû appeler au secours. Tandis qu'on m'emmenait chez le médecin, je réussis à me dégager et en proie à une rage frénétique, je me jetais contre la fenêtre du couloir. J'en brisai la vitre et me fis une profonde blessure à la main. Vous en voyez ici encore la cicatrice.